Bonjour à tous, c'est Aurélien du blog Batteur sans limite et aujourd'hui j'ai le plaisir d'être avec Adrien Drums qui est pas mal connu sur YouTube, qui a plus de 2 millions de vues, plus de 17 000 abonnés à sa chaîne YouTube et on va voir ensemble comment faire pour faire une drum cover de A à Z, quelles sont les différentes étapes pour faire une drum cover et comment est-ce qu'il fait pour travailler son instrument aussi. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, Adrien ?
Ok, bah bonjour à tous, et puis merci déjà à toi de me recevoir. Bah écoute, pour me présenter, je suis donc batteur YouTube, batteur session, live et studio. J'ai commencé en gros la batterie quand j'avais, enfin la musique globalement quand j'avais 7 ans. Je commençais très jeune parce que mon père était musicien. J'ai commencé en fait au conservatoire en apprenant le solfège, la batterie, le piano. Et en fait, l'enseignement, on va dire, de conservatoire un peu classique, ça m'a très très vite gonflé. Surtout que, bon voilà, à 7 ans, t'as plus envie d'aller jouer dehors avec tes potes que d'aller faire tes gammes de solfège. Et puis bon, l'enseignement me plaisait pas trop parce que c'était beaucoup plus théorique que pratique et c'était très classique.
Ouais.
Donc en fait, j'ai arrêté assez rapidement. Alors je sais plus exactement, je crois que j'avais 12 ans quand j'ai arrêté. Et j'ai repris en fait après en autodidacte à 18 ans. Avec un groupe, directement un groupe de punk qui s'appelait Legs on Fire. On a fait pas mal de concerts, on a fait des tremplins, on a beaucoup joué. Et en fait, c'est une période où j'étais essentiellement en recherche d'énergie, de puissance, de vitesse. Et j'ai surtout pendant cette période-là joué en me faisant plaisir, mais j'ai pas vraiment travaillé. Et c'est un peu plus tard, on va dire vers 24-25 ans, que j'ai pris conscience de ce que c'était le travail de l'instrument, le travail de la batterie, la vraie pratique. Et c'est depuis ce temps-là que que j'ai pris conscience que je voulais en faire quelque chose et que je le travaille vraiment vraiment sérieusement et que j'essaye de développer ce que je peux pour m'en sortir.
D'accord. Et tu as quel âge maintenant ?
Je viens d'avoir 30 ans.
Ok, bon anniversaire.
Merci.
Et du coup, tu as seulement commencé à travailler il y a quelques années et là, tu as repris un professeur ou tu es retourné dans une école ou quelque chose ?
Alors ouais, depuis l'année dernière, je prends des cours avec Nicolas Bastos. Je sais pas si tu le connais.
Ah, Nicolas Bastos, c'est le batteur de L'Esprit du Clan.
L'Esprit du Clan, Deep Innate. Et je suis allé le voir en fait ouais parce que j'avais envie de bosser un peu les pieds et c'est quand même une très grosse référence dans ce domaine-là et finalement je bosse beaucoup d'autres choses avec lui et presque pas les pieds.
Ah ouais.
ouais parce qu'il a un programme qui est assez intéressant qui est basé sur une méthode qui est issue de Gary Chaffee, qui a fait une méthode en fait avec du grouping, essentiellement du grouping qu'il a appelé par des lettres et des chiffres et il mélange ça pour avoir un peu de liberté sur le kit. Enfin, c'est assez intéressant.
Et comment est-ce que tu écris Chaffee?
il me semble que c'est Chaffe2e.
D'accord, ok. De toute façon, pour ceux qui écoutent le podcast, hein, je ferai une recherche et après, je mets tous les liens, toutes les références qu'on cite, je les mets sur l'article sur le blog. Et donc, pour ceux qui écoutent ça sur YouTube ou sur iTunes, vous pouvez aller sur le blog batteursanslimite.com et il y aura toutes les références qu'on cite pendant ce podcast. D'accord, donc il utilise plus la méthode de Gary Chaffee pour te former et du coup tu étais venu avec l'idée de travailler la double, j'imagine, oui, l'esprit du clan. Bon ben, enfin Bastos, je me rappelle qu'il avait fait une masterclass à Strasbourg aussi, il était venu il y a quelques années à Strasbourg, j'y étais pas, mais j'avais vu les publicités et oui, pour le travail de la double, il a l'air d'être assez connu et puis bon bah ce qu'il fait avec l'esprit du clan, il y a pas de souci. Ça va
la double, ouais. C'est clair.
Et donc, qu'est-ce que tu travailles avec lui concrètement ? Tu peux partager un exercice ou...
Bah, comme je t'ai dit, beaucoup de grouping. Après, il y a certaines, pas mal de techniques qui présentent, qui en fait sont issues de ce que lui avait besoin en tant que batteur un peu de métal extrême pour aller plus vite, trouver des astuces pour aller plus vite avec les mains, avec les pieds, pour se fatiguer le moins possible et gagner vraiment en efficacité. Donc il y a beaucoup en fait de prise de conscience de ta position, du mouvement que tu peux faire. Voilà. Après, précisément, je sais pas, il y a beaucoup de choses, donc c'est un peu difficile de prendre un truc de manière isolée.
Oui, bien sûr. Et alors, le grouping, qu'est-ce que c'est? Tu as mentionné plusieurs fois le grouping, c'est quoi ça?
Bah, c'est des figures, par exemple, de 3 coups, 4 coups, 5 coups. Que tu combines. Par exemple, je sais pas, tu vas combiner un paradiddle avec ce que par exemple Gary Chaffee a appelé le 3A. Le 3A, c'est donc 3 coups. Par exemple, droite, gauche, gauche. Et après, il va faire un 4B, un paradiddle, 4 coups.
Ouais.
Et il va en fait juxtaposer ses lettres et ses chiffres pour en fait enchaîner différents groupings pour faire une phrase complète.
D'accord, comme des mots de vocabulaire qu'on va assembler ensemble pour faire une phrase.
C'est ça.
Ok, d'accord. Et alors tu disais quand on les assemble, ça peut être l'un après l'autre ou l'un au-dessus de l'autre, par exemple pied, main.
Alors c'est du linear drumming, donc c'est les uns après les autres.
Ok.
Après, tu peux très bien, par exemple, faire... développer du grouping main droite main gauche et balancer un kick par-dessus. Donc là tu joues plus en linéaire, mais à la base c'est pensée linéaire.
D'accord, ok. Ah, c'est intéressant, j'ai jamais travaillé de cette manière-là. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui travaillait de cette manière-là. C'est intéressant
C'est
comme point.
hyper intéressant et du coup j'ai remarqué qu'en fait il y avait quand même quelques méthodes dont j'ai plus le nom et quelques grands batteurs qui parlent pas mal de ça, qui parlent du grouping et qui en fait qui est juste le fait de jouer linéaire en rassemblant des figures de X notes. Et après, ce qu'il faut, c'est arriver à trouver en fait la bonne combinaison pour avoir par exemple je sais pas sur du 4-4 pour avoir 16 coups.
Ouais.
Et ensuite, c'est à toi de savoir, on va dire, l'orchestrer comme tu as envie sur le kit.
D'accord.
Donc ouais, c'est super intéressant.
Ok, cool. Ouais, ça a l'air d'être une approche différente, enfin différente de ce à quoi je suis habitué, en tout cas. Ok, ça marche. Et donc aujourd'hui, avec, est-ce que tu fais que de la batterie? Est-ce que ta chaîne YouTube t'a permis d'avoir assez de visibilité, assez de, je sais que t'as eu apparemment pas mal de contrats qui sont venus grâce à ta chaîne YouTube, tu t'es fait connaître grâce à ça, et donc des personnes t'ont contacté. Est-ce que tu fais plus que ça aujourd'hui?
Non, non. Malheureusement, j'ai un travail qui, on va dire, qui paye mes factures. Non, aujourd'hui, je vis pas de ça. Je travaille pour que ça arrive,
Ouais.
mais pour l'instant, je ne vis pas de ça. Non.
D'accord,
Ça
ok.
m'arrive, si tu veux, évidemment, de gagner un peu de sous, mais c'est pas suffisant, pour, en faire une activité principale, quoi.
Ouais, c'est pas suffisant pour l'instant. Ok, d'accord. Et alors, moi, un truc qui m'a marqué particulièrement, tu parlais du grouping, les méthodes dont tu travailles, c'est ta précision dans tes drum covers. C'est à quel point tu es vraiment carré. Et je me rappelle même qu'il y a une chanson pour laquelle je t'avais demandé où est-ce que tu avais trouvé la drumless track, donc la chanson sans la partie batterie. Et tu me disais, non, mais en fait, je joue sur la partition de batterie. Et alors, quand il y en a plein qui font ça, et ça s'entend carrément, quoi. Ça fait des flats, ça fait des prap, 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 il y a plein de coups comme ça, il y a des trucs, enfin, ça s'entend, quoi. Et toi, pour la chanson en question, je sais plus laquelle c'était, mais j'ai vraiment rien vu, j'ai vraiment rien capté. Est-ce que tu travailles quelque chose en particulier pour la précision?
Alors ouais, je travaille quelque chose en particulier pour la précision. Je vais juste démystifier ce que, par contre, ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que il arrive que je recale un petit peu en editing en fait mes prises. C'est-à-dire que pour mes covers en fait je fais une seule prise. C'est pas, tu vois, un assemblage de plusieurs prises où je prends le meilleur.
Ouais.
Je fais une prise, on va dire live. Si jamais justement j'entends des espèces de flats ou des choses qui viennent gêner l'écoute parce qu'il y a une batterie derrière, je recale.
D'accord.
C'est pas systématique, c'est-à-dire qu'il y a des covers sur lesquels, en fait, étant donné que la chanson, en fait, ça dépend de la chanson. C'est-à-dire que tu vois, dans la plupart des prods actuels, tout est recalé. Donc, si tu joues par-dessus quelque chose, forcément, comme t'es pas une machine, tu vas entendre un petit décalage.
Ouais.
Ce qui fait que sur ces prods-là, généralement, je recale. Sur les prods qui bougent un petit peu, genre par exemple, la dernière que j'avais faite, c'était Royal Blood, une cover de Royal Blood sur acoustique. Et celle-là, je ne l'ai pas recalée parce que la chanson de base n'est pas recalée, elle bouge. Donc j'ai dû vraiment me mettre dans la peau du batteur pour savoir à quel moment il accélère, à quel moment il ralentit pour faire ça avec lui. Et voilà.
Et là,
Alors
donc, tu
après, bon.
joues sur... oui, pardon, je te coupe pour celle-là, donc, de Royal Blood. Tu joues sur la partie de batterie, alors. T'as pas eu une drumless track.
Non, j'ai jamais eu de drumless track.
D'accord.
Les seuls moments où il n'y avait pas de batterie, c'est que j'ai choisi de prendre des chansons qui n'en avaient pas ou peu à la base. Et voilà. Donc, je pense qu'il faut, enfin, je veux dire, je tiens vraiment à démystifier ce truc-là, c'est-à-dire que là, la plupart de mes covers sont entre guillemets parfaites. Donc, il faut pas se dire que c'est que je suis une machine. Je suis pas une machine. par contre, évidemment, c'est-à-dire que c'est pas de la triche dans le sens où si jamais, tu vois, je fais une prise et que c'est pas bon, bah, je vais pas me dire, ok, je recale, c'est pas grave. Parce que de toute façon, ça se voit tout de suite, un mec qui fait ça, parce que quand il va synchroniser le son avec la vidéo, ça va créer de gros décalages. C'est-à-dire que tu vas le voir taper sur la snare et tu vas entendre le coup après ou avant.
Ouais.
Donc moi, quand ça arrive, ce genre de truc, quand je me rends compte de ça au montage, je fais ok, bon, bah, je jette et je recommence.
Ouais.
Après, bon, ta question sur comment faire pour être...
Précis pour travailler la précision, ouais.
Voilà, pour travailler la précision, j'ai pris conscience de ça en fait il y a pas très très longtemps. Et pour moi, tout est dans la compréhension du mouvement. C'est dans le geste, en fait, ça part de la prise de ta baguette et de tout le geste, de toute la mécanique que tu vas mettre en marche pour jouer.
Ouais.
C'est-à-dire, bon, évidemment, tout le monde le dit, mais c'est quelque chose sur lequel il faut insister parce que on a beau le dire, moi-même, des fois, je ne suis pas ce principe et je vois plein de batteurs qui ne le suivent pas. Il faut être relax à mort. Et si t'es tendu, t'as beaucoup plus de chances, d'accélérer, ou alors de pas être hyper précis parce que le mouvement sera pas bon. En fait, c'est comme une danse. C'est un peu comme une danse, tu vois, la batterie. Il faut faire les bons pas pour que ce soit joli, que ce soit joli à voir et à la fois à entendre. Il n'y a pas que l'aspect visuel, tu vois, dans le geste. Il y a, du coup, ce que ça va impacter sur ta batterie.
Ouais.
Et plus tu fais attention à ton geste, à ton mouvement et à ta position, plus tu vas prendre conscience justement de ton placement dans le temps. Et moi, en fait, c'est quelque chose qui m'a... Alors, c'est un peu conceptuel, mais il faut vraiment se poser cette question de la position de son corps par rapport à la batterie, des mouvements qu'on fait et de la danse qu'il faut faire pour bien orchestrer tout ça. Et il y a des choses, du coup, qui se débloquent quand tu arrives un peu à comprendre ça.
Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, ça me parle vraiment. Et je me disais il y a quelque temps, je remarquais que j'avais tendance à faire avec les mains cette espèce de flat, d'avoir un peu la cymbale juste avant la caisse claire et de faire un petit trac. Et à chaque fois que ça m'arrivait, je me disais, mais prépare ton mouvement, Aurélien, pense-y avant, c'est-à-dire commence à lever le bras plus tôt. à lever le bras et le poignet, la main, à préparer ton mouvement de baguette plus tôt. Et je me rendais compte que quand je me préparais plus tôt, j'arrivais à être plus précis. Et quand j'y repense, je me dis, mais c'est tout bête, c'est vraiment pas un truc de fou. Et quand j'y pense, et du coup, c'est plus mon état d'esprit, ma pensée du moment qui va m'aider à être plus précis, qui va m'aider à réussir à être vraiment bien calé, bien dans le temps, quoi.
Ouais, mais c'est ça qui est assez frappant, c'est que finalement, quand tu te rends compte des erreurs que tu fais, tu te dis, mais putain, bien sûr, pourquoi j'ai fait ça? C'est pourtant évident, mais en fait, je pense que même des choses évidentes, il faut les expérimenter pour vraiment les intégrer. Les entendre, ça suffit pas.
Ouais.
Faut vraiment se poser et essayer de, au lieu de se jeter sur la batterie, se dire, tiens, j'ai envie de jouer, j'ai envie d'envoyer du break et de machin, se dire, ok. Qu'est-ce qui va pas? Pourquoi ça va pas? Comment faudrait que je fasse pour que ça aille mieux? Et à partir de là, t'expérimentes, tu te trompes, tu changes, tu te retrompes et au bout d'un moment, tu arrives à avoir le bon chemin.
Ouais, et je suis complètement d'accord. Le fait d'entendre ça, d'entendre ce podcast, d'écouter ce podcast, de regarder les vidéos et tout ça, c'est très bien. Ça ouvre l'esprit à des choses et ça permet de rester dans cette dynamique de batteur, etc. Mais c'est pas suffisant. Il faut faire le mouvement, il faut mettre l'action en place pour pouvoir l'intégrer. Et je pense que l'apprentissage, apprendre quelque chose, c'est changer son comportement. C'est pas juste se dire, ah bah voilà, je connais l'information, je suis capable de la recracher, je suis capable de le redire. Non, je suis capable de changer mon comportement. Et c'est là que j'ai pleinement appris quelque chose. Ok, super. Bah, merci pour ce partage sur la précision. Ça a du sens, ça a vraiment du sens, ouais. Maintenant, j'aimerais qu'on entre plus dans les drum covers, justement, les reprises. Alors déjà, au cas où, s'il y a des personnes qui ne savent pas ce que c'est qu'une drum cover, une drum cover, c'est quand on reprend un morceau qui existe qu'on reprend la partie de batterie, quoi, hein, qu'on rejoue dessus, on fait une reprise, on rejoue dessus. Et il y en a plein sur YouTube, on peut voir plein de drum covers. Moi, j'ai marqué différentes étapes pour faire une cover, du choix de la chanson jusqu'au montage, la publication et même la promotion de la vidéo, si promotion il y a, sur Facebook, Twitter, etc., pour qu'il y ait plus de vues. Par quoi est-ce que tu commences? Quelle est toi la toute première étape? Qu'est-ce que tu te dis avant de faire une drum cover?
Alors la première étape, c'est effectivement dans le choix de la chanson. Enfin, même avant le choix de la chanson, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai envie de me mettre vraiment dans la peau d'un batteur que j'aime particulièrement et de réussir à reproduire ce qu'il fait? Donc de me lancer un espèce de challenge, genre tiens, j'ai envie d'apprendre ce pattern à la double ou j'ai envie de passer ce break-là. Qui fait, enfin tu vois, j'ai envie d'apprendre un nouveau beat que j'avais pas pensé, ou alors je me dis tiens, j'ai envie de créer quelque chose. Donc c'est-à-dire de pas faire vraiment un cover mais un remix, c'est-à-dire de prendre quelque chose qui à la base n'a pas de batterie ou alors a une batterie assez pauvre ou genre un boomchuck électro tout au long de la chanson.
Ouais.
Et de me dire tiens, j'ai envie de faire quelque chose avec ça, j'ai envie de créer. Donc ça, c'est la première question que je me pose. Si j'ai envie de créer, bah, je vais plutôt aller chercher des chansons de variété ou de dance ou de pop ou d'électro. Et si j'ai envie de mettre à la peau d'un batteur que j'aime bien, bah, je vais plus aller piocher dans les styles que j'aime un peu plus, que j'écoute un peu plus, dans le rock, dans le métal, ou dans plein d'autres styles. Mais c'est principalement ça pour l'instant.
D'accord. Et alors, juste avant de continuer, tant qu'on est sur ça, justement, ce matin, je répondais sur un forum, je crois, sur la taverne des batteurs, qui disait, ouais, est-ce que pendant, il y a quelqu'un qui demandait, est-ce que pendant une drum cover, on est obligé de suivre exactement ce que le batteur a fait? Alors déjà, je me dis, il n'y a aucune obligation, déjà, il n'y a pas de loi sur le sujet, hein, si tu fais autre chose, tu ne seras pas puni.
Oui, clairement.
Et ensuite, je me dis, alors moi, ce que j'ai en tête, c'est que drum cover, c'est cette recherche effectivement de refaire ce que fait un batteur. Quelle que soit la raison, là n'est pas la question. Il y en a qui vont dire ah, c'est pas créatif, blablabla, on s'en fout, c'est pas ça la question. La drum cover pour moi, c'est cette idée de reprendre la partition et de réessayer de jouer note pour note ce qui a été fait. À l'inverse de drum remix, qui va être reprendre une chanson qui existe déjà. Et comme tu disais, quelque chose peut-être qui laisse beaucoup de place à la création, comme un beat électro qui va juste avoir un punchak et sur lequel on peut construire ce qu'on veut. Et là, on va peut-être plus parler de drum remix. Est-ce que t'es d'accord avec cette définition ou tu...
Bah, je suis 100% en phase avec ça. Et c'est pour ça que ouais, moi, sur certaines de mes vidéos, je mets drum remix et sur certaines vidéos, je mets drum cover parce que ça correspond aux deux cas que tu as cités.
Ok, parfait. Bon, bah, c'est cool, je suis content. Alors, ça clarifie un petit peu la chose. Et donc, tu pars de cette intention. Est-ce que je veux copier un batteur qui m'inspire, qui fait quelque chose que j'ai envie de jouer ou est-ce que je veux créer quelque chose? Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe après?
Bah, à partir du moment où je me suis décidé sur ce que j'avais envie de faire, là, je vais partir à la recherche de la chanson. Et là, bon, bah, j'écoute plein de trucs, je vais sur YouTube, je vais même des fois dans mon propre iTunes parce j'ai plein de musique et il y a des choses que j'ai ou envie de redécouvrir ou que j'ai pas encore écouté. Où je regarde même des fois mon fil d'actualité Facebook parce que voilà, il y a plein de gens qui postent des choses, des chansons qui viennent de sortir, des choses comme ça. Et voilà, bah, je me mets à la recherche de ma chanson.
Ouais.
D'accord. Tu veux la suite ?
Oui.
Ok.
Je me disais, donc il y a la recherche de la chanson. Et donc là, ça part après, j'imagine, d'un coup de cœur. T'envoies une où tu te dis.
C'est ça.
Ah bah bim, ouais, là je suis chaud.
Exactement. C'est toujours un coup de cœur. J'écoute un truc et je me dis, ah ouais. J'ai envie tout de suite là de me poser derrière ma batterie et de jouer ce truc-là tout de suite. Donc ensuite, bah, ce que je fais, c'est que je décortique le morceau. Enfin, d'abord, je me fais plaisir, je jamme par-dessus pour voir si c'est faisable
ouais.
par rapport à mon niveau, ou alors si vraiment j'ai des idées ou s'il y a rien qui vient ou si ça m'inspirait, mais en fait j'ai rien d'intéressant vraiment à dire et à faire par-dessus. Donc une fois que j'ai jamé et que entre guillemets j'ai validé mon choix, j'écris ou sur ordi ou sur papier la structure de la chanson, genre intro, couplet, transition, break vénère, refrain, couplet numéro 2, etc., etc.
Ah ouais.
Je note toutes les parties pour en fait réussir à comprendre en fait la chanson. Et puis moi aussi me dire tiens bah c'est construit comme ça donc je vais pouvoir enchaîner les choses de telle manière. Ensuite en face de ces différentes parties je vais noter les temps forts, c'est-à-dire les moments où tombe la snare, où est-ce qu'il y a une cymbale, où est-ce qu'il y a un kick, pour que je fasse à minima ce qui est sur la chanson.
Ouais.
Je dis à minima parce que dans le cas où je vais vouloir créer quelque chose, bah, il va falloir, pour ne pas entendre deux batteries différentes, deux beats différents, que je me cale à minima sur ce qui existe.
Mm-hmm.
Donc, je vais noter les temps forts pour être sûr de les jouer. Et encore à côté de ça, je vais noter au fur et à mesure les idées que je peux avoir. Alors après, c'est pas une notation, on va dire, académique, c'est... je peux très bien marquer break vénère sur tom, passage saccadé au kick, alterner les cymbales, tu vois des
ouais,
choses
ça,
comme ça que
ça a du sens pour toi, ça parle pour toi. Toi quand tu le vois, tu peux le reconnaître, mais c'est comme mon écriture, moi j'écris comme un gamin de 8 ans un petit peu handicapé et il y a que moi qui peux le relire et qui peut comprendre ce qui se passe. J'imagine que c'est un petit peu pareil, c'est ton vocabulaire, c'est que
voilà, c'est mon vocabulaire et puis c'est aussi ma manière de dire les choses. Si quelqu'un d'autre le lit, je pense que il pourra peut-être pas comprendre les choses de la même manière, mais ouais. À la limite c'est tant mieux parce que justement, moi aussi, je reste un peu vague dans ce que j'écris pour ne pas trop figer les choses et juste donner l'idée directrice, tu vois, du passage.
Ouais.
C'est-à-dire, voilà, là, ce couplet-là, par exemple, j'ai marqué tribal sur tom. Donc, je sais pas exactement ce que je vais faire, mais je vais essayer de faire un truc tribal sur les toms, tu vois.
Okay.
Et du coup, à chaque prise que je vais faire, ça va potentiellement être quelque chose qui va être dans la même idée, mais qui va être un petit peu différent, qui va être joué un petit peu différemment, pardon.
D'accord. Ouais. Ok. Donc là, alors, on part de, tu prends d'abord la structure qui est celle du morceau. Donc tu, avec, sur laquelle tu as marqué où sont les pêches, où sont les caisses claires, les cymbales, etc., les temps forts, comme tu disais. Et après, tu te l'appropries plus. Tu viens plus à noter tes choses perso, moments tribal sur les tomes, etc. Et là, à ce moment-là, après, tu vas derrière ta batterie, c'est parti, tu la joues.
Alors après, il se passe un long moment parce que j'affine, je cherche beaucoup, en fait, je passe beaucoup de temps à essayer de trouver le plan qui à la fois me fait kiffer et à la fois sert la musique. Donc j'essaye plein de choses, j'en jette, je reviens dessus, je suis content, je suis plus content. Donc ça, c'est un processus qui me prend un peu de temps. Une fois que j'ai figé, je vais le répéter beaucoup, beaucoup, beaucoup pour que ce soit propre, que je sache où je vais, parce que comme je t'ai dit, comme je fais une prise, faut pas que je me plante, donc je le travaille assez longtemps, jusqu'à ce que ce soit, on va dire, bien rodé.
C'est quoi, c'est longtemps?
C'est difficile à dire parce que la notion de temps, elle est très différente en fonction de l'emploi du temps de chacun. Généralement, j'arrive pas, avec mon emploi du temps, à sortir plus d'une cover par mois, voire tous les 2 mois. Ça veut pas dire que je la bosse à fond et je fais que ça pendant 2 mois, mais comme je travaille ma technique à côté, enfin, tu vois, c'est très difficile à quantifier parce que c'est très dispersé sur le temps, en fait.
D'accord. Tu te dis pas là ce samedi je consacre tout mon samedi à travailler cette cover et dimanche
Impossible.
je la filme, non?
Non, impossible. Impossible parce que j'ai besoin de ce temps de recul pour savoir si ce que j'ai fait c'est bien, si l'idée que j'ai eue elle est bien, ou si je peux trouver quelque chose de mieux.
Ah, d'accord.
Donc j'ai vraiment besoin de prendre. Je pourrais pas me faire ça en moins d'une semaine, tu vois.
Ouais, t'as besoin que l'idée mûrisse, qu'elle ait un peu
Exactement.
de recul dessus. Ok.
Ouais.
D'accord. Et ouais, c'est le rythme que tu as en ce moment, à peu près une par mois? Une par mois tous les 2 mois?
Non, non, c'est l'objectif que je me suis fixé, mais en réalité, en moyenne, je pense que j'ai plutôt fait une tous les 2 mois. Ouais, je pense que je suis plus là-dedans, voire des fois même un peu plus, parce que comme je t'ai dit, je prends vraiment du temps pour travailler quelque chose et avoir quelque chose à dire d'intéressant. Donc, enfin, j'essaye, en tout cas, c'est ma démarche. Donc ça me prend un peu de temps, ouais. Et
D'accord.
je me lance tout le temps des défis. À chaque fois que j'en fais une, je me lance un défi. Donc c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas fait une cover où je me suis dit, ah putain, celle-là, c'était simple.
D'accord. À chaque fois, il y a un truc où tu... Justement, c'était la question suivante. Le travail de la chanson, vu que tu le fais sur une certaine durée et que potentiellement la chanson, tu la connais. J'imagine que la mémorisation, ça doit pas trop être un problème. J'imagine que tu le travailles pas en soi. Mémoriser la chanson, ça doit venir tout seul vu que tu la joues sur un certain temps. C'est vrai?
C'est ça, ouais.
D'accord. Et après, tu as peut-être le travail technique. Si tu choisis un plan et tu vas peut-être à la limite de tes capacités techniques et du coup, il va falloir que tu bosses un truc précis.
Ouais. Alors, ça m'est arrivé pour plusieurs covers. Celle dont je me souviens particulièrement, c'est celle de Pendulum. C'était la chanson Witchcraft, où j'ai fait du piano et de la batterie dessus. Elle est hyper intense. Et en plus, c'est une chanson très énergique, donc je bourrine vraiment dessus. J'ai des gestes très amples, ça va très vite, donc il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup d'énergie. Et je me rappelle justement celle-ci avoir mis 2 mois à la faire, non pas parce que j'avais pas encore trouvé les idées, mais parce que physiquement, j'étais à la rue avant la fin de la chanson.
D'accord, ouais.
Mais tu vois, typiquement par rapport à ce qu'on se disait au début, avec le recul, je pense que j'ai eu autant de mal parce que justement j'avais trop d'énergie, j'étais très crispé parce que c'était très rapide. Et peut-être que j'aurais mis moins de temps si j'y étais allé un peu plus cool, à balancer moins de bras, moins de poignets. Bon voilà, c'était juste pour faire une petite parenthèse.
Ok, je mettrai le lien aussi, celle-là de Pendulum, je regarderai, je vois pas laquelle c'est, comme ça. Mais oui, enfin, ils sont de manière générale assez énergiques, c'est un truc qui bouge, quoi.
C'est ça.
Ouais, d'accord. Et donc là, il y a des moments comme ça où tu peux avoir des limites techniques et forcément, ça prend plus de temps, il faut que tu travailles ça précisément.
Exactement, ouais. Ça peut être physique, donc là c'était juste physique. Après, ça peut être techniquement quelque chose qui demande à mon cerveau de redoubler d'efforts et parce que ou il y a une polyrythmie ou alors il y a des plans que je n'arrive pas à faire. Et là, dans ce cas, généralement, je diminue en fait de 20 à 30% la vitesse de la chanson et je joue par-dessus en augmentant progressivement,
Ouais. Et
tout
tu
simplement.
diminues avec quoi? Tu passes par Audacity?
Je passe par Logic Pro X.
D'accord, Logic Pro X, ouais. Alors j'ai découvert récemment Mimicopy, une application qui s'appelle Mimicopy. Si je dis pas de bêtises, c'est Mimicopy que j'ai téléchargé sur moi sur mon iPhone. Je sais pas si c'est sur Android aussi. Est-ce que avec Logic Pro X aussi, quand tu accélères ou diminue le tempo, est-ce qu'il garde la même tonalité ou est-ce que la voix, est-ce que les sons sont modifiés?
Alors, c'est quelque chose que tu peux choisir dans les paramètres. Tu peux choisir de
Ah.
modifier la tonalité en fonction de l'augmentation ou la diminution de la vitesse, ou alors garder la même tonalité.
Ah, génial, c'est parce que ça, c'est de la bombe. J'ai Audacity, enfin que je sache, ne permet pas ça. Et là, avec cette application, justement, avec Mimicopy, j'ai pu réussir à faire ça. Et là, quand j'ai entendu ça pour la première fois, j'étais en mode vraiment, waouh, mais c'est possible! J'avais jamais entendu ça, une chanson qui, avec un tempo modifié, mais sans modifier la tonalité.
Ouais,
Ça, c'est génial.
c'est vraiment génial. Bah, puisque tu parles d'application, il y a une appli aussi qui s'appelle Capo, CAPO, qui permet de diminuer la vitesse d'une chanson. Et ce qui est assez intéressant, c'est que tu peux appliquer un equalizer sur une partie du spectre pour, par exemple, pas virer complètement, mais diminuer le champ pour vraiment mettre en valeur la batterie et mieux entendre ce qui se passe.
Ah.
Je m'en sers parfois quand je suis dans les transports ou quand je suis en studio et que j'ai pas mon ordi avec moi. Je me sers un peu de cette appli.
D'accord, capot. Bah, je checkerai aussi. Ça a l'air intéressant. Cool. Et donc là, on en est à l'étape où t'as plus de. Enfin, la chanson, t'es prêt, quoi. La chanson, tu la connais. T'es prêt à la jouer. Donc, c'est le temps de se filmer,
C'est
j'imagine.
ça,
Ou alors, il y a autre
ouais.
chose avant.
Bah, je choisis mon plus beau t-shirt et
On va chez le coiffeur, petite manucure et c'est parti.
Non, c'est ça. Bah, écoute, à partir du moment où c'est prêt, bah, je branche les lumières, je branche les caméras et c'est parti.
D'accord. Et qu'est-ce que tu utilises comme matériel? Alors en batterie, tu as une Roland. D'ailleurs, tu es sponsorisé par Roland.
Ouais, je suis endorsé par Roland. Donc j'ai une Roland qui est un petit peu hybride parce que elle s'est, enfin, je l'ai améliorée, on va dire, au fil du temps. Donc c'est pas un modèle précis. Mon module, c'est le TD25. Après, j'ai des cymbales de TD20. Enfin, bref, on va dire, c'est une batterie custo.
D'accord, ok, ça marche. Et qu'est-ce que tu as en pédale?
Alors, ma pédale, c'est une Mapex Falcon.
La Falcon, ouais. Et tu
Ouais.
joues, tu utilises une double? Il me semble que j'ai entendu une.
Ouais, c'est
Ouais.
une double. Ouais.
D'accord. Et pour les caméras, qu'est-ce que tu utilises alors?
Alors pour les caméras, j'ai un appareil photo qu'il me semble entrée de gamme, c'est le Nikon J1. J'ai trois GoPro et un caméscope entrée de gamme, je sais même plus la marque, ça doit être Sony. C'est pas un truc extraordinaire, mais ça fait le boulot.
Ouais, d'accord. Et les GoPros, c'est lesquels?
Alors j'ai une GoPro 1 et deux GoPro 3.
D'accord, ok. Ouais, ça marche. Donc du coup, t'as, c'est super, t'as pas mal de choses. Alors juste, que ça n'effraie pas les auditeurs qui ont peut-être juste un smartphone ou je ne sais quoi, c'est génial, mais c'est pas ça qui fait une cover fantastique, quoi. C'est vraiment bien, c'est un très bon outil, mais il faut surtout pas qu'on se sente limité en se disant « Ah, mais moi, j'ai pas de GoPro, j'ai pas de je ne sais quoi, etc. » Forcément, bah, c'est mieux d'en avoir, hein, c'est mieux de pouvoir faire plusieurs plans et tout ça, mais faut pas que ce soit une limite, faut pas que ça limite le fait
Non,
de...
alors c'est très bien ouais, que tu dis ça parce que moi sur mes premières covers, justement, je me suis filmé avec mon smartphone et l'appareil photo que tout le monde a, qui est le Coolpix, je crois que c'est vraiment l'appareil photo entrée de gamme
Ouais.
qui fait des vidéos également et c'est tout. Et je me suis démerdé avec ça. Et le secret, en fait, pour avoir une bonne qualité de vidéo, c'est pas forcément d'avoir un matériel vidéo de ouf, c'est pas d'avoir des caméras de ouf, c'est d'avoir un bon éclairage.
Ouais, une bonne lumière.
Si tu as une belle lumière, tu peux utiliser franchement n'importe quelle caméra, tu auras un résultat qui sera correct. Si tu as une bonne caméra, mais que tu as une luminosité qui est vraiment mauvaise, tu auras un résultat qui sera très moyen.
Ouais. Et qu'est-ce que tu utilises alors pour l'éclairage?
Alors en fait, j'utilise des spots que j'ai achetés dans un magasin de photos. J'ai trois spots, donc deux en fait que je mets de part et d'autre, donc à droite et à gauche, et un que je mets un peu plus au-dessus qui éclaire plus globalement. Il y a pas mal de watts, hein. Il y a, je crois, 2 fois 300 watts à droite et à gauche. Et il doit y avoir 1500 watts sur le spot que je mets un peu devant, au-dessus. Ça doit
Ouais.
être quelque chose comme ça.
D'accord.
J'ai plus exactement, mais c'est quelque chose comme ça.
D'accord. Et combien ça t'a coûté les trois je sais plus comment on appelle ça, les pieds
Les spots?
ouais, les spots. En fait, c'est quatre ampoules que t'as dedans ou c'est juste une
Ouais, c'est ça, c'est
ouais,
ça.
d'accord.
Combien ça m'a coûté? C'est une bonne question. Ça fait un moment et puis j'ai pas acheté tout en même temps. Au début, j'en ai acheté que deux. Il me semble que j'ai dépensé dans les 250 euros pour ça.
Ouais, c'est généralement. J'avais regardé pour ça aussi ce genre de choses et généralement on peut s'en sortir en dessous de 300 euros. Et après on peut commencer sans. Encore une fois, comme les caméras, on commence sans, on voit ce que ça donne. C'est toujours bon de faire des erreurs aussi par soi-même, s'en rendre compte par soi-même et de se dire après, ah bah oui, en fait c'est vrai, l'éclairage, il faut investir dedans et pas que dans la
Ouais, bah ouais,
caméra.
clairement.
Et oui, ce genre de choses, c'est génial. Moi, j'en ai pas encore, mais c'est quelque chose que dans c'est une chose dans laquelle je vais certainement investir parce que ça fait super bien le job, quoi. Ça marche très
Ouais,
bien.
carrément.
D'accord. Et donc l'éclairage, les caméras. Alors toi, tu as une électronique. J'ai pas vu les de cover sur une acoustique, mais tu mentionnais que tu avais fait une cover sur une acoustique aussi. Pour ce
Ouais.
qui est de l'électronique, du coup, tu peux la brancher à l'ordi et tu passes par un logiciel, tu fais comment?
C'est ça, je la branche en USB, en MIDI vers USB sur mon ordi et j'utilise en fait des samples qui viennent de chez Slate Digital. Les samples s'appellent Steven Slate Drums. C'est des samples de batterie qui sont. C'est aussi un de mes sponsors. C'est des samples que j'adore parce que ils sont, on va dire, très faciles et rapides à mixer. C'est-à-dire que je vais pas me prendre la tête 300 ans à tourner des boutons et à faire une compression, etc. C'est des samples qui sonnent direct
Ouais.
et ça me plaît vachement.
Ouais, d'accord. Donc facile à utiliser, puis ça sonne cash, super. Et donc t'as les samples, et après t'as un logiciel qui va avec, ou comment tu...
Bah en fait, j'ouvre tout dans Logic Pro, c'est mon
Ouais.
séquenceur, donc qui héberge les samples. Et puis derrière, j'ai quelques plugins de mixage qui viennent aussi de chez Slate Digital. Voilà, j'utilise généralement un équa, une compression, une reverb, et c'est tout.
D'accord, ok. Et là après, c'est niveau matos, c'est bon. Ça, tu le fais sur ton ordi, sur ton Mac. On voit le Mac de temps en temps. Et
C'est ça.
tu as autre chose à ajouter sur le matériel? Je suis en train de réfléchir. Je suis en train de me demander si on est en train de louper quelque chose niveau matériel. Il y a autre chose ou...
Bah, tout dépend en fait de ce que tu as. Si t'as une batterie électro avec un module, bah ouais, il te faut un câble MIDI USB, un ordinateur. Si ton ordinateur est pas super puissant, c'est bien d'avoir une carte son externe parce que ça va te permettre de gagner un petit peu en latence. La latence, c'est le temps qu'il faut entre le moment où tu tapes ta batterie et le moment où le son se produit.
Ouais.
Si tu as une petite config, c'était mon cas au début, tu galères un peu parce que tu entends vraiment un décalage. Et donc à l'époque, j'avais une carte son externe qui diminuait un petit peu cet écart.
D'accord. Ok, ça marche. Et après, une fois que tu as ça, vient le moment du montage. Et il me semble, hein, une fois que tu t'es filmé et tout ça, t'as le son, t'as l'image, il n'y a plus à faire le montage. Et là, tu le fais sur quoi?
Le montage, je le fais sur Final Cut Pro X. C'est pareil, j'adore ce logiciel parce que c'est pour moi très simple d'utilisation, surtout pour le multicaméra. Ça va très très vite. J'ai juste à synchroniser mes différents angles et après je fais play et je choisis l'angle que je veux faire apparaître. Après voilà, je fais quelques retouches couleurs et puis c'est terminé.
D'accord, ça marche. Et ouais, tu fais donc le montage. Alors pour ça, il y a Final Cut Pro, il est payant. Il y a un autre sur Mac, il y a iMovie qui vient avec le Mac, il me semble, qui est gratuit. Et Windows, je crois que c'est Windows Movie Maker. Donc ça, pareil, encore une fois, quand on commence, il y a toujours des alternatives, des
Ouais, bien
choses où on
sûr.
peut se débrouiller, qui sont gratuites ou peu chères. Et quand on commence, c'est pas non plus la peine de s'attendre justement à avoir la qualité de tes dernières vidéos. C'est pas quelque chose qu'on va obtenir tout de suite. Il y a toute une recherche derrière, de l'éclairage, des différents plans, que ce soit sur la batterie, en dehors de la batterie et tout ça. Donc c'est quelque chose qui vient avec le temps, quoi, hein, avec l'expérience. C'est normal. Et ensuite, tu as le montage est fait. Vient le moment de la publication. Publication donc sur YouTube. Est-ce que tu publies sur d'autres plateforme vidéo.
Non, maintenant ce que je fais de temps en temps quand j'ai le temps, c'est que je mets un extrait sur Facebook. J'uploade un extrait et je mets un lien qui redirige vers YouTube.
D'accord, ouais, bah super, tu réponds à ma question suivante justement qui est pour la promotion de la vidéo. Comment tu fais pour avoir un maximum de vues? Alors, tu as une page Facebook aussi, donc tu vas le partager sur Facebook. Est-ce que tu fais autre chose? Je sais pas, tu as Twitter ou un autre.
J'utilise Twitter aussi. Twitter, c'est assez génial pour ça parce que tu peux assez rapidement rentrer en contact avec ou l'artiste ou le management de l'artiste si jamais ils sont assez actifs sur Twitter. Et du coup, moi, voilà, ça m'est déjà arrivé de rencontrer, enfin de d'être en contact avec des producteurs qui avaient produit la chanson dont j'avais fait la cover. Et qu'ils avaient eux-mêmes repartagé en disant ouais c'est regardez ça c'est super cool. Il y a le compte officiel de Shakira qui a publié ma vidéo que j'avais faite sur Empire. Ouais ça pour Michael Jackson aussi pour Bad il me semble que c'est arrivé. Ouais Twitter c'est très bien.
Excellent, j'adore ça. Là, c'est vraiment chercher la méthode, on appelle ça le 20-80, 20% d'efforts qui apporteront 80% du résultat. Et là, c'est exactement ça, de se dire, si on fait ces drum covers de son côté, il y a des chances, enfin, il y a des chances, avec un peu de chance, elle devient virale pour X raisons, et tant mieux, ça marche, elle a beaucoup de vues et tout ça. Mais quand on a le compte Twitter de Shakira ou je ne sais qui, qui a certainement des milliers de followers, là tout de suite, bim, on touche énormément de personnes et ça fait tout de suite augmenter énormément les vues. J'imagine que c'est ce type de vidéos qui ont eu le plus de vues sur ta chaîne.
Même pas, mais ça aide en tout cas beaucoup, ouais, au développement de la visibilité de la vidéo. Ça aide beaucoup, ouais. Mais non, c'est pas forcément du coup. Après, je veux dire, enfin, la course à la vue, faut pas non plus trop, tu vois, trop s'y fier. Alors, il y a évidemment quelques stratégies pour bien faire une campagne promotionnelle qui sont très simples, hein. Mais après, ta vidéo, si elle est bien, elle sera vue et elle sera partagée, ça viendra dans le temps.
Ouais.
Si ce que tu fais, c'est quelque chose de qualité, si tu as des choses intéressantes à dire, si ça parle à des gens, t'as pas besoin de la poster tous les jours sur toutes les plateformes qui existent,
Ouais,
les gens le feront pour toi. Voilà, c'était la
je
petite
suis.
précision.
Et là, je suis en train de me dire justement, c'est bien de penser aux efforts à mettre après, mais je pense que les efforts doivent surtout être faits avant. pendant le moment de production derrière la batterie,
Clairement.
que après sur les réseaux sociaux et de la balancer partout. Forcément, c'est intéressant et de faire ça, mais c'est pas forcément le plus constructif quoi, hein, le plus épanouissant. Et du coup, c'est lesquelles tes vidéos qui ont eu le plus de vues? C'est de quel artiste, quelle reprise?
Alors celle qui a le plus de vues, je crois que c'est un peu plus de 400 000, c'est Maroon 5.
Ouais.
Je l'ai pas senti venir.
C'est vrai, tu t'y attendais pas?
Non, je m'y attendais pas parce qu'en plus c'est une des chansons où j'ai fait le moins de chichi et de démonstrations techniques, tu vois, où j'ai joué plutôt pépère. Et donc vraiment, je m'y attendais pas quoi. J'avais en fait quand j'ai écouté la chanson, ça fait partie des chansons où j'ai fait un remix par-dessus. Il n'y avait pas grand-chose et je me suis dit putain, il y a un super truc à faire là-dessus. Et bon bah ça a marché.
Ouais, ça, c'est cool ça, une belle surprise. Moi, je suis quelqu'un de curieux aussi. J'aime bien voir ce genre de choses, être surpris. J'aime bien la surprise, se dire bah tiens, je m'attendais pas à ça. Ou à l'inverse, ça peut être frustrant de se dire purée, cette vidéo, je l'ai super bien travaillée, je vais avoir des bons commentaires ou je sais pas, elle va plaire. Et en fait, non, peut-être pas. C'est arrivé ça,
Ah
l'inverse?
putain, ouais, bah c'est arrivé sur pas mal. Il y en a où je me dis putain, celle-là c'est dommage, enfin je la trouve vraiment cool. J'aime beaucoup genre ce que j'ai fait, ce que j'en ai fait. Et non, non.
Non, les autres n'ont pas été
Mais
réceptifs
non,
apparemment.
c'est ça, ouais.
Et est-ce que tu as une préférée, une que tu conseilles de voir à tout prix?
Wow, c'est dur. Bah, j'aime beaucoup Empire de Shakira.
Empire de Shakira, ouais.
J'aime beaucoup Diamond pardon, de Rihanna. Celle de Pendulum aussi, elle me fait. Là, enfin, j'adore la chanson à la base, donc elle me fait bien kiffer.
Ok, bah écoute, c'est déjà pas mal. Je mettrai celle-là aussi dans les liens, dans les références. Et Diamond aussi, tu disais. D'accord, ça marche. Je vais voir, je vais checker tout ça. Et pour revenir sur les différentes étapes, il y a aussi une question que je me posais par rapport au droit d'auteur. Est-ce que tu peux avoir un problème? Est-ce qu'on peut avoir un problème avec les droits d'auteur quand on fait une drum cover?
Tu peux non, t'as pas de problème tant que tu n'essayes pas d'en avoir. C'est-à-dire que le contenu que tu vas utiliser, étant donné qu'il appartient à un producteur, c'est le producteur qui va décider si tu vas pouvoir utiliser son contenu ou si la vidéo va être bloquée sur certaines dans certains pays ou sur certaines plateformes. Donc, je veux dire, au pire. Ce qui peut t'arriver, c'est que ta vidéo soit bloquée. Donc, non, il n'y a pas de. Enfin, tu peux pas te faire emmerder, entre guillemets. Tu peux juste te faire emmerder si tu deviens un partenaire YouTube et que tu peux monétiser tes vidéos et que tu décides de monétiser une vidéo dont les droits ne t'appartiennent pas.
Ouais.
Là, à partir de là, tu peux te faire emmerder. Sinon, non.
Sinon, pas de problème, y est pas. Le FBI ne viendra pas toquer à la porte si je
Non.
reprends un truc.
Bah non, non, mais en plus, il y a vraiment une grosse hypocrisie là-dessus parce que il y en a qui il y a des certains producteurs qui ne veulent pas que tu utilises leur contenu, il y en a certains qui veulent bien que tu l'utilises mais que c'est eux qui récupèrent en fait tous les bénéfices en fait
Ouais.
des vues que tu vas faire. Et c'est un peu, je trouve, bon, il faudrait qu'il y ait un partage parce que derrière, tu contribues aussi à faire connaître l'artiste, à faire connaître la chanson. Moi, tu vois, il y a souvent des gens qui me disent, ah, tiens, je connaissais pas cette chanson, je connaissais pas cet artiste, c'est cool, ça m'a fait découvrir, je suis hyper content. Donc, tu vois, c'est un peu dommage, quoi, ce
Oui, c'est
système.
gagnant-gagnant. Il y a une relation de gagnant-gagnant. Donc oui, c'est dommage que ce soit.
C'est un peu dommage, ouais. C'est dommage que les producteurs veulent bloquer un petit peu ce truc-là, quoi.
D'accord. Ok. Et dans les descriptions et des fois quand tu parles dans les vidéos, il me semble qu'il y a des fois des choses que tu dis. Tu parles en anglais. Tu as choisi l'anglais. Et pourquoi l'anglais, du coup, plutôt que le français?
Bah, tout simplement parce que si je parle en français, je me coupe de plus de la moitié, je dirais même les trois quarts de mes vues. Et je trouve ça pas très cool du coup pour pour ces trois quarts-là qui me suivent, qui me soutiennent, qui font vivre un peu la chaîne, de pas s'adresser à eux. Du coup, je suis aussi désolé pour les Français qui sont pas anglophones. Mais bon, bah, j'ai pris le parti de, on va dire, d'essayer de toucher le plus gros nombre.
D'accord, ouais. Ok. Et là, alors, tu me disais que tu étais encore jet-lagué, que tu venais de rentrer tu étais sur la côte ouest, il me semble, en Californie.
C'est ça.
Et tu as visité tes sponsors. Donc, tu es sponsorisé par Roland. Tu as aussi cité Steven Slate Drums. Et il
Voilà.
y a, alors, je sais pas comment on le prononce, RLRRR, enfin, par Lidl, quoi.
Ouais, par Lidl.
Et comment est-ce que tu as fait pour être sponsorisé?
Alors, j'ai aussi TRX, qui est ma marque de cymbales acoustiques. J'ai Simpad, qui sont des mousses que tu mets en dessous de ta cymbale pour diminuer en fait la résonance. C'est très 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 utile en studio et enfin en studio de répétition et dans des petits gigs. J'espère que j'oublie personne. Si, et Earbay aussi qui sont mes in-ear monitors.
Ouais.
Normalement, j'ai oublié personne.
Ok, bah c'est excellent ça. Et comment est-ce que tu as fait alors pour avoir autant de sponsors?
Alors, c'est un petit peu, si tu veux, au début, bah, j'en avais pas, et j'avais acheté la licence Steven Slate Drums, et en fait, en faisant des vidéos, ben, ils sont tombés dessus et ils ont dit, on adore ce que tu fais, est-ce que ça te dit que? J'ai dit oui, évidemment. Et donc, globalement, ça s'est fait souvent comme ça, c'est-à-dire que c'était des marques que j'appréciais. Et du coup, j'ai pu rentrer en contact avec les gérants et ça s'est fait. Et après, c'est vrai que pour les gros sponsors, le plus dur à avoir, c'est le premier. Une fois que tu as le premier, les autres se disent, OK, il y a une crédibilité, on va y aller.
Ouais.
Genre, par exemple, depuis que je suis chez Roland, bah, y a des facilités, on va dire, à contacter certaines personnes où il y a un peu plus de crédibilité quand je présente mon dossier, tu vois, pour n'importe quoi, pour une opportunité de travail, ou pour avoir un autre sponsor, enfin.
Ouais. Et donc le Steven Slate Drums est le premier à être tombé sur ta chaîne YouTube. Donc là, c'était un peu par hasard, c'est eux qui sont tombés dessus et qui t'ont contacté.
C'est ça.
Et suite à ça, est-ce que c'était le même schéma pour les autres sponsors ou c'est toi qui allais les voir en leur disant coucou, je fais des drum covers et tout ça et j'aimerais être sponsorisé par vous?
Alors il y a de tout. Par exemple, mes cymbales acoustiques, c'est un ami qui m'a présenté à la marque. Je saurais pas te dire. Pour Roland, c'est eux qui sont venus vers moi.
Pareil, après sur YouTube, ils ont vu ta chaîne et...
Ouais, c'est ça. Alors, je sais pas exactement comment, c'est toujours assez difficile à savoir, mais généralement, je prenais toujours le soin de tweeter en mettant le tag Roland sur mes vidéos. Comme ça, je sais que ça apparaît dans leur fil d'actualité. Donc, peut-être qu'au bout d'un moment, tu vois, ils ont vu une vidéo
Ah.
et voilà.
D'accord. Ouais, pas bête ça, oui, de tout bête de tweeter avec le hashtag de la marque dont on est intéressé. Ok. Et du coup, quelle est ta relation avec eux? Qu'est-ce que tu dois faire ou quel est l'échange?
Bah, l'échange, c'est la mise en visibilité de la marque. Il faut évidemment, bah, pour mes cymbales acoustiques, bah, il faut que je fasse ou des vidéos ou alors des concerts ou des tournées. Pour la Roland, bah, il faut que je fasse des vidéos. Ils vont peut-être aussi me demander de faire quelques démos dans des salons. Enfin voilà, il faut représenter la marque. Aussi, quand je rencontre des batteurs qui pourraient être intéressés par une marque en particulier, bah, je les présente à la marque, au gérant, pour qu'ils passent par eux. Donc voilà, après, c'est une relation que tu as avec tes sponsors. Tu leur montres que tu aimes ce qu'ils font. Comme ça, eux aussi vont te montrer que bah, ils aiment ce que toi tu fais. Ils vont, enfin, tu vois, faut vraiment pas voir ça comme ok, je vais essayer d'avoir un sponsor pour avoir du matériel gratos ou moins cher. C'est pas du tout ça, vraiment un contrat d'endorsement. C'est un espèce de contrat entre deux personnes qui se respectent et qui ont envie de travailler ensemble, tu vois. Moi, j'aime toutes les marques avec lesquelles je bosse, parce que pour certaines d'entre elles, je les utilisais avant d'être sponsorisé. Donc, voilà ce que je peux dire
D'accord.
là-dessus.
Et après, j'imagine que pareil, une fois qu'on commence à faire parler de soi parce que on a des parce qu'on fait quelque chose de qualité et qu'on le partage. C'est ça qui est important, faire quelque chose de qualité et le partager. Est-ce que faire en sorte que les autres sachent qu'on fait quelque chose qu'on aime, qui est de qualité, etc. Et forcément, ça va attirer des sponsors à un moment donné. Et pour Roland, par exemple, ça veut dire que la batterie que tu as, c'est eux qui te l'ont fournie?
Non, à la base, j'avais déjà acheté ma batterie Roland, mais bah, là, par exemple, ils m'ont envoyé le nouveau module TD25. Ça dépend en fait du besoin. En fait, c'est moi, c'est-à-dire que je leur dis voilà, est-ce que vous auriez ça? J'aurais besoin de ça, et ils voient ce qu'ils peuvent faire avec ce qu'ils ont, quoi.
D'accord, cool. Et tu disais aussi pour des salons, genre il y a un salon de la musique, quelque chose, et puis ils t'appellent et ils te disent, ouais, est-ce que tu pourrais être là pour faire des démos et tout ça? C'est cool ça.
Bah, c'est en discussion.
Ouais. Et qu'est-ce qui t'intéresse le plus dedans? Ce serait de faire ça justement, faire ce genre de démos et compagnie, ou alors des tournées ou...
J'ai déjà fait quelques tournées. Je vais en faire une aussi bientôt avec un de mes groupes. Donc je joue assez régulièrement sur scène. Je fais pas mal de travail de studio parce que. En fait, la visibilité que me donne ma chaîne fait qu'il y a des artistes un peu du monde entier qui me contactent parce qu'ils disent voilà, j'aime bien ta manière de jouer et voilà, j'ai enregistré quelques tracks à la basse ou à la guitare et j'aimerais bien que tu poses un truc par-dessus. Donc à ce moment-là, voilà, je fais des séances de studio où je facture à la chanson, je fais ça chez moi, je leur envoie, on discute, etc. Après, qu'est-ce que j'aime le plus? Je sais pas. Je pense que je pourrais pas me séparer de la scène. J'adore jouer en live parce que t'as l'énergie, des gens qui sont là, t'as un partage avec les musiciens sur scène. Enfin, je pense que ça, je pourrais pas m'en passer. Mais après, j'adore aussi bosser en studio, créer des parties originales de batterie. Donc, ouais. En fait, j'aime la batterie. Donc, tout ce que je peux faire avec, je le fais, quoi.
Bah oui, carrément. D'accord. Et est-ce qu'il y a un autre, on va profiter de cette opportunité, si tu as un autre sponsor, est-ce qu'il y a un autre sponsor que tu aimerais avoir? À tout hasard, s'il y a des personnes qui écoutent ce podcast et qui ou alors représentent un sponsor ou alors connaissent quelqu'un qui, est-ce qu'il y a un autre sponsor que tu aimerais avoir aujourd'hui?
Ouais, j'aimerais bien passer chez Tama
Ouais.
pour l'acoustique parce que ouais comme je t'ai dit il y a des choses qui vont se passer pour un des groupes avec lesquels je suis qui s'appelle Glowing Shadow. On va bientôt là démarrer une tournée et puis on vient de signer un contrat de management avec Do It. C'est un label français Donc du coup, je vais avoir besoin d'une batterie acoustique. Et j'aime beaucoup Tama. Voilà,
D'accord.
donc Tama, si tu m'écoutes.
Voilà, le message est passé, le message est dans l'univers. Tama, si tu es là, tu peux nous répondre. Ok, cool. Et Glowing Shadow, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi comme style?
C'est quelque chose qui se situe entre le rock alternatif et le métal. Enfin, c'est plutôt du rock alternatif avec des teintes un peu métal, avec quelques breakdowns, avec une batterie assez dynamique, avec la particularité d'avoir beaucoup d'orchestration, beaucoup de samples, piano, trompette, violon, tout, enfin, l'orchestre complet. Donc, qui donne un côté un petit peu épique et assez mélodique aux chansons, quoi.
Cool. Et du coup, qu'est-ce que je peux communiquer par rapport à ça? Plutôt votre site, page Facebook, ou pour les personnes qui sont intéressées par...
Bah écoute, le mieux, je pense, c'est d'aller sur notre chaîne YouTube, Glowing Shadow.
Glowing Shadow.
Ouais, c'est le mieux, c'est d'aller sur notre chaîne YouTube parce qu'on a pas mal de clips, on a des lives, on a plein de choses là-dessus. On a mis notre dernier EP également. Donc ouais, YouTube.
Super, parfait. Je mettrai le lien aussi. Cool. Moi, je suis curieux de voir les lives aussi parce que j'ai l'habitude de devoir faire les covers, donc dans une pièce isolée. Et j'ai hâte de te voir en plein air, de te voir avec sans mur aussi.
Ah bah écoute, hein, bon maintenant t'es un petit peu loin pour venir à un live, mais
Ah
sait-on
oui.
jamais si tu reviens en France ou si je vais jouer là-bas, sait-on jamais.
Bah oui, carrément. Alors, pareil, je passe le message dans. Si quelqu'un nous entend, le M83, moi je vis dans Caroline du Nord, près de Raleigh, et M83 vont jouer à Raleigh en juin, le 23 juin, si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça, dans un mois. Et j'aimerais les voir et j'aimerais rencontrer leur batteur qui a été interviewé par Wikidrummer récemment. Alors, j'ai déjà essayé de contacter Wikidrummer pour avoir. Pour être mise en contact avec lui, mais ce serait génial. Si quelqu'un le connaît ou quoi, moi je suis chaud. Ok, et alors avant qu'on se quitte, quelles sont tes chaînes de cover préférées? Est-ce qu'il y a des personnes qui font des covers sur YouTube que tu suis?
Ouais, alors bah au début c'était Cobus parce que je trouvais que il avait justement cette fraîcheur et cette créativité que j'adore. Il a un super son aussi et je trouve que en fait ses idées me parlent beaucoup. Maintenant il y a Luc Holland qui envoie du très 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 lourd.
Oui.
Il a mis la barre genre ultra haut. J'adore son jeu. J'aime beaucoup ouais, ce qu'il fait, c'est vraiment un excellent batteur. J'ai pu le rencontrer à Paris, je sais plus, c'était il y a 2 ans quand il est venu avec son groupe. On a pu aller se balader un peu dans Pigalle et c'était cool de discuter avec lui.
Et c'était quoi son groupe?
The World Alive.
D'accord. Je vois le batteur, mais je vois pas avec qui il joue.
Et ben voilà, The World Alive.
World Alive. Ok, et donc ouais, t'as pu le rencontrer, c'était une belle rencontre.
Ouais, c'était cool, ouais. Ouais, c'était cool.
Ok.
Et ouais, sinon après, bon, il y en a beaucoup. Je vais peut-être pas tous les citer, mais généralement, celui qui m'impressionne vraiment, c'est Luc Holland. Ouais.
Ouais, Luc Holland. Ok, parfait. Alors moi, il y en a quelques-uns que... Il y a Kevin Paradis que j'ai interviewé récemment aussi, qui fait des...
Ouais.
Voilà, c'est orienté très métal extrême. Et il est vraiment impressionnant.
Ouais, très bon batteur, ouais.
Ouais. Il y a Troy
Troy,
Wright.
ouais.
Troy
Troy
Wright
Wright.
aussi, qui est complètement
Ouais.
dingue. Pareil, c'est assez... Alors très souvent, c'est vraiment métal, hein.
Ouais.
C'est très orienté métal souvent. Troy Wright est excellent. Il y a
J'adore sa
aussi...
gestuelle, ouais.
Ouais, et il est très très brutal, je trouve, avec les pieds notamment. Il a une gestuelle comme il frappe les pédales.
Ouais.
Ouais. Et il y a Corey Myers que j'ai découvert récemment. Et là, on n'est pas dans un registre métal, on est quelque chose de beaucoup plus en finesse, si on peut dire ça comme ça. Corey
Ouais.
Myers, et j'ai vraiment adoré. Il fait des trucs que la plupart des gens peuvent jouer, qui sont plutôt simples. Mais il les fait vraiment sonner. Il les fait vraiment très bien sonner. J'adore son son, j'adore sa manière de jouer. Il a un truc. En plus, il me semble qu'il est super jeune. Je crois qu'il a. J'avais vu 21 ans. Je ne sais pas si la vidéo était d'actualité, si la description avait été écrite il y a longtemps ou quoi. Mais 21 ans, ouais. Enfin bon, c'était de la bombe. Alors, il y a un des grands aussi, c'est Cooper Drummer, hein, qui est très connu maintenant. Qui a fait pas mal de drum cover aussi, et
Ouais.
qui, Cooper Drummer, moi ce que j'aime bien, c'est qu'il a l'air d'être géant, je sais pas combien il mesure, mais il a l'air d'être très grand et il a une gestuelle, une manière de bouger. On dirait, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe comme il est grand comme ça. Et on dirait qu'il pourrait avoir une batterie absolument géante avec des tomes et des cymbales partout. Et il pourrait toujours tout atteindre sans trop bouger. Il y a quelque chose de marrant comme ça quand je le vois jouer. Même si je suis pas vraiment fan de ce qu'il fait, mais ça peut valoir le coup d'œil aussi.
Ouais, c'est bon, c'est vrai que moi je suis moins fan aussi de l'approche qu'il a. Bien souvent il y a je laisse tourner les caméras et je jamme. Alors c'est une approche hein,
Ouais.
qui vaut ce qu'elle vaut, mais c'est pas trop moi mon truc.
Ouais, c'est pas trop ce que tu kiffes.
Ouais.
Ouais, j'avoue que c'est quelqu'un que je pense qu'il faut le checker, il faut aller voir ce qu'il fait parce qu'il y a quelque chose de particulier, mais c'est vraiment pas celui que je vais suivre sur YouTube, quoi. Contrairement à Corey Myers, par exemple, ou Troy Wright aussi, qui est complètement dingue.
Corey Mayer, je connais pas du tout, j'irai checker ça.
Ouais, bah pareil, je mettrai les liens dans l'article. Ok, super. Bah merci beaucoup, Adrien. Et alors j'aimerais juste revenir petit bilan de ce qu'on a dit pour faire de A à Z, comment faire une drum cover. On a parlé de toi, tu commences par l'intention dans laquelle t'es, à savoir est-ce que je veux faire une drum cover ou un drum remix. Après
C'est ça.
tu fais une recherche, tu checkes ce qui est partagé sur Facebook, tu regardes un petit peu ce qui se fait et tout ça pour choisir ta chanson. Donc choix de la chanson. Tu jams sur la chanson, tu t'éclates dessus, ensuite tu notes la structure originale et après tu ajoutes tes idées dessus et tu la travailles comme ça et puis après rouler bouler quoi. T'enregistres, tu fais le montage et tu la publies. Donc je crois qu'on a toutes les étapes, qu'on a dit pas mal de choses avec le matériel notamment. Donc il y a juste une chose dont on n'a pas parlé et qui est peut-être fondamentale aussi, c'est la peur de se montrer, la peur de publier. Quelque chose où on joue, qui est peut-être difficile à passer, mais je pense que c'est le courage, c'est d'agir, même si on a peur. Le courage, c'est pas de ne pas avoir peur. Enfin, selon moi, c'est comme ça que je vois la chose. Le courage, c'est pas de ne pas avoir peur. Le courage, c'est d'agir même si on a peur. Et je pense qu'il y en a pas mal qui doivent flipper, du fait de montrer comment ils jouent et tout ça. Et puis, des fois, on voit dans les commentaires des mecs qui les descendent et tout ça. Il y a toujours des haters, hein. J'imagine que tu en as eu aussi, hein, qui t'ont dit t'es vraiment nul ou je sais pas quoi. Et puis bon bah ça arrive, faut y être prêt, faut l'accepter pour ce que c'est et ne pas le prendre personnellement. Et de toute façon s'éclater, on est là pour s'éclater, on n'est pas là pour je ne sais quoi et pas se prendre trop au sérieux. Il y a pas de loi ou je ne sais quoi, on n'est pas là pour se prendre au sérieux quoi.
Non, non, et puis c'est vraiment un super exercice de s'enregistrer. Mais pas qu'au niveau du son, au niveau aussi de la vidéo. Même si d'ailleurs, au final, tu le publies pas, ça te permet de voir vraiment beaucoup de choses. Moi, j'ai vu beaucoup de défauts, à la fois quand j'écoutais et quand je regardais. C'est très, très frappant. Des fois, tu crois avoir bien passé un truc, tu l'écoutes et tu te dis, waouh, merde, j'étais pas dedans. Et parfois aussi, tu vois une gestuelle où tu te dis, mais ouais, non, c'est pas beau et c'est pas efficace et il faut corriger ça. Donc non, vraiment, il faut pas hésiter à aller là-dedans, même si t'as pas le niveau que tu voudrais avoir, même si t'as pas le matériel que tu voudrais avoir. Tout le monde commence un jour par quelque chose. Il faut commencer par quelque chose.
Ouais.
Après, les choses évoluent et voilà.
Oui, c'est ça. Faut pas avoir le but, c'est de se lancer. Et puis peu à peu, il y a des choses qui se passent. Il y a un jour Steven Slade Drums qui t'écrit en disant qu'ils veulent te sponsoriser. Et puis voilà quoi. Et puis en avant. Donc c'est oui, c'est génial. Je pense que c'est un très bon exercice en soi aussi.
Et puis alors j'ai créé un blog sur lequel je présente moi qui suis, mon matériel, etc. Et je viens de publier un article qui traite exactement du sujet dont on a traité aujourd'hui. Donc s'il y a des gens qui veulent avoir enfin des informations complémentaires ou qui veulent voir tout ça par écrit, bah, j'ai l'article qui est sur mon blog qui traite de comment faire une drum cover et la promouvoir sur YouTube.
Yes, super. Bah, je mettrai le lien aussi hein, dans les références qu'on voit, qu'on puisse voir cet article.
Bah, c'est très gentil à
Cet
toi.
article. Ok, c'est noté. Yes, super. Merci beaucoup à toi, Adrien.
Ah, merci à toi.
Yes. Et puis, bah écoute, belle cover. C'est quoi la prochaine? T'es en train de travailler sur une cover là?
Ouais, j'en ai trois différentes dans des styles vraiment différents. Il y a de l'électro, du métal et de la, je sais pas, de la pop, on va dire.
Ouais, t'as des titres à nous donner?
Je préfère pas trop m'avancer parce
Un petit
que
teaser.
il arrive souvent que je joue quelque chose et que en fait je le jette. Bon, là vraisemblablement il y aura du 21 Pilot, du Architect. Et une petite surprise.
Ok, ça marche, une petite cerise sur le gâteau. Ok, ça marche, ça marche. Bah, merci beaucoup, Adrien. Belle, belle cover à toi. Et puis à bientôt.
Merci, à bientôt.
Ciao, ciao.
Ciao.